Philippe Lacote, au royaume de la fiction.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
C'est déjà le tapis rouge pour son film La Nuit des Rois, film somptueux qui a représenté la Côte d'Ivoire aux Oscars 2021. En compétition officielle au prochain FESPACO, prix de la mise en scène au Festival du film francophone d'Angoulême, n'en jetez plus. Philippe Lacote, qui porte bien son nom, garde la tête froide. Une tête dont le tissage entre noir et blanc, Afrique et Europe, raconte une filiation qui donnerait du grain à moudre aux historiens et autres sociologues de nos temps modernes. Éduqué entre une mère ivoirienne cofondatrice du FPI, l'ancien parti de Laurent Gbagbo, et un père français conquis par l'idéologie nazie, Lacote prendra la tangente grâce à d'autres temps modernes. Merci les salles obscures. Lui dont on se demande régulièrement pour quelle partie il roule, fonce, notamment depuis Run, sur l'autoroute de la fiction. Clap première sur cette nuit des rois qui s'aventure dans la plus grande prison de Côte d'Ivoire, la Maca.
C'est comment dehors? Raconte-moi un peu.
Maudit Allah, c'est pas ton cause.
Raconte-moi une histoire. Et t'es une fois.
Oh, bah, raconte.
Tu vas me dire que t'as pas d'histoire à raconter?
Si, mais...
Ah, donc, raconte ce qui te passe par la tête.
C'est un rêve que j'ai fait. Dans mon rêve, j'étais avec trois amis sur un bateau au milieu de l'océan. Ça faisait plusieurs jours qu'on n'avait pas mangé. L'eau aussi commençait...
Les valets! C'est lui! Notre roman.
Enfin, roman.
Bonjour Philippe Lacote.
Bonjour Yasmine.
C'est plutôt pas mal hein, de commencer sa journée en sol majeur avec Miss Amy Winehouse. Mais pourquoi elle ?
Parce que ça groove.
C'est
tout
clair.
Tout simplement. Ouais. Et voilà, elle est, c'est une artiste qui est super douée. C'est une artiste qui a une trajectoire aussi qui m'intéresse.
Mm-hmm. Back to Black, c'est toute votre histoire aussi. Vous qui filmez régulièrement la Côte d'Ivoire. On va entrer dans cette histoire de la Nuit des Rois dont on vient d'entendre un extrait où Barbe Noire, le caïd de la prison, demande aux nouveaux venus une chose assez étrange.
De raconter une histoire. De raconter une histoire pendant toute une nuit parce qu'on arrive au sein de la Maca à un moment où il y a une lutte de pouvoir, à un moment où Barbe Noire doit quitter le pouvoir. Et donc, pour continuer à régner, il crée un rituel où il y a un nouveau prisonnier qui doit raconter une histoire aux autres prisonniers.
Mmh. Il doit quitter le pouvoir parce qu'il est malade. Et là, il y a un pacte entre lui et ses co-détenus.
En fait, j'aime bien travailler sur des histoires réelles parce que la pratique de roman, c'est une histoire réelle à la Maca, mais toujours en insufflant de la fiction. Et étant donné que le corps est vraiment important en prison, il y a une loi qui est fictionnelle qui dit que le chef, s'il est malade, doit se donner la mort. Donc on arrive à ce moment-là dans la prison.
À 47 minutes du film, on voit des fusils qui pointent une jeune maman déjà à terre et son petit garçon de 3 ans, fils du vieil aveugle Sonny. C'est un certain Zama qui deviendra Zama King, chef des microbes d'Abidjan. J'espère que vous suivez tous hein, derrière le poste. Vous êtes à 47 minutes de La Nuit des Rois lorsque Roman raconte cette histoire sous les yeux de ses co-détenus.
C'est ainsi que Sonny est resté seul avec son fils. C'est ainsi que Zama a perdu sa mère.
Zama, Zama, Zama.
J'ai comme
Zama, Zama, Zama.
Griot.
Zama, yeah.
Griot.
La Nuit des Rois, c'est une prison où l'on chante, où l'on raconte le temps d'une nuit de lune rousse. Une prison où la parole est reine, un rituel qui existe, vous le disiez, Philippe Lacote. Ça existe vraiment dans cette prison de la Maca à Abidjan qui est perdue comme ça au milieu d'une jungle. Mais effectivement, le raconteur d'histoire que vous êtes y a mis doublement sa touche.
Oui, parce que faire un film en tant que raconteur d'histoire ou en tant que réalisateur sur un personnage qui raconte une histoire, ça crée une mise en abîme. Et voilà, j'avais envie de montrer que la prison est une société à part entière, est une société qui peut produire du récit, qui peut produire de l'imaginaire. Donc là, il y a ce jeune prisonnier qui s'appelle Roman, comme un roman, qui va puiser dans l'art des griots, qui va puiser dans la tradition orale des conteurs africains.
Il raconte une histoire qui ne doit jamais s'arrêter.
Il ne doit jamais arrêter son histoire. Voilà.
On ne dit pas pourquoi.
Parce que sinon, il est mort. Voilà. Et donc, évidemment, ça fait penser à Scheherazade, ça fait penser aux Mille et une Nuits. Mais je voulais, à travers ce personnage, parce qu'il annonce dès le départ que sa tante est griotte, qu'il a grandi avec sa tante. Et donc, c'est un jeune personnage qui arrive comme ça dans cette prison et qui se demande si quelque chose lui a été transmis de ce qu'il a vécu. C'est un jeune pickpocket dans les rues d'Abidjan. Et à la
compagnon de Zama King.
Voilà, compagnon de Zama King, donc témoin très proche comme ça. Et donc, il va raconter ce qu'il connaît. Et à la fin de la nuit, il est devenu conteur. Il a cette force-là, il a cette révélation. Donc, c'est un parcours initiatique aussi pour lui et qui permet en même temps de rendre hommage à toute la tradition orale africaine.
Oui, parce que c'est effectivement un gamin perdu, un gamin des rues perdu d'une certaine manière, d'Abidjan. Mais il a été effectivement éduqué par une griotte. Et ça, ce n'est pas un détail.
Non, ce n'est pas un détail. Et c'était une manière de parler de la transmission. La transmission, elle ne se fait pas forcément dans des lieux purs. dans des lieux idéalement parfaits.
Institutionnalisés.
Voilà, institutionnalisés ou étiquetés. C'est-à-dire que j'aurais pu faire un jeune homme comme dans Run, qui est dans la montagne ou qui est dans un village et qui a envie d'être griot. Mais là, j'avais envie de montrer que la transmission, elle peut se faire dans des lieux dits impurs. Et c'est ça aussi notre question aujourd'hui dans l'Afrique contemporaine, il me semble.
Amour entre hommes et femmes, amour entre frères et sœurs, et puis travestissement des identités. Ça, c'est en quelque sorte l'intrigue très, 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 très résumée de La Nuit des Rois d'un certain William. Pourquoi cette allusion à Shakespeare dans votre titre ?
C'est la productrice qui a choisi ce titre, mais je suis complètement en accord, parce qu'en fait, on avait envie de faire résonner ce côté pouvoir. Parce que la Maca, c'est une prison que je connais bien, parce que je l'ai visitée quand j'étais enfant, parce que ma mère y était pendant un an pour des raisons politiques. Mmh. Et j'avais l'impression que je visitais un royaume, un château. Parce qu'en prison, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de survivre, hein, parce qu'ils ne reçoivent rien. Et donc, ils sont au service des autres prisonniers. Et donc, je voyais ça un peu comme des maîtres, des reines, des rois, des valets. Et donc, quand on place une lutte de succession dans ce royaume-là qu'est la prison, mais on pense tout de suite à Shakespeare.
Et donc, vous donnez à votre roman, on l'a presque dit, une petite touche dans cette Nuit des Rois, une petite touche Mille et une Nuits.
Peuple de la Maca. Chaque homme continue à se mentir jusqu'au jour où il se trouve devant sa mort. Excusez-moi si je suis allé un peu vite. Mais il fallait que je me libère d'un poids. Que je vous dise comment Zama est mort. Ma tante Salimata, la griotte, m'a toujours dit que toute histoire doit avoir un début et une fin. Et dans mon empressement, j'ai commencé par la fin. Quand Zama était devenu un scorpion enragé. J'aurais dû vous raconter d'abord comment Zama... Est-ce que vous savez où Zama a grandi?
La Nuit des Rois, dans le Cinémascope en sol majeur, avec une photographie magnifique, des corps et des visages noirs sculptés par la lumière d'une façon impressionnante, une atmosphère de lune rousse, donc, on l'a dit, et de contes hors sol, la présence énigmatique d'un prisonnier silencieux mais détenteur d'un secret, tiens, c'est un blanc, interprété par Denis Lavant, et puis dans ce qui pourrait être une tragédie humaine, il y a des codes de narration qui n'ont absolument rien à voir avec les codes occidentaux, puisque là, Philippe Lacote, vous faites intervenir les corps.
Ben, les corps sont importants, il me semble, quand on parle de prison, parce que ce qui est en jeu dans la prison, c'est les corps. Quand vous visitez une prison, vous verrez que la salle de musculation est l'endroit où il y a le plus de personnes. Et donc, j'ai l'impression que les esprits peuvent voyager, l'esprit peut voyager, mais les corps sont bloqués. Et donc, j'avais envie que dans ce film-là, on sente des corps, que le corps de Barbe Noire, le caïd, soit en jeu, que si le corps est malade, le chef doit se suicider parce que les prisonniers qui essaient de protéger leur corps, qui se demandent si leur corps va sortir indemne de cette épreuve, ne peuvent pas supporter d'être gouvernés par un corps malade. Donc il y a toute une chose autour du corps et autour des danses aussi qu'on
voilà,
a ramené dans
le film. Voilà, parce qu'on pourrait s'imaginer qu'Une Nuit des Rois qui nous emmène dans la plus grande prison d'Abidjan, la Maca, soit un film violent. Que nenni ! Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand Roman raconte à l'instant que Zama King s'est transformé, enfin, était comme un scorpion enragé ? Qu'est-ce qui se passe physiquement dans cette prison ?
Qu'est-ce qui se passe physiquement ? Il se trouve que c'est comme si les prisonniers étaient dans des transes. Hein. C'est comme si les corps des prisonniers étaient emportés par le récit. Et donc, il y a des joueurs, il y a des danseurs qui commencent à mimer le scorpion. Et donc, en fait, on voit que la prison, le récit se raconte avec tous les prisonniers ensemble. Et qu'il y a des mots, mais il y a aussi des corps, il y a des danses, il y a des chants.
Un casting particulier, j'imagine ?
Oui, un casting particulier qui a pris 2 ans. On a sillonné tous les quartiers populaires d'Abidjan pendant 2 ans avec mon directeur de casting, Johan Richemont, qui est ivoirien. Et on a rencontré pratiquement 2000 jeunes. On en a sélectionné 40, des danseurs, des chanteurs, des pratiquants d'arts martiaux, des jeunes acteurs.
Des fusils, des microbes, des gangs qui sèment la terreur, donc. Un Zama King qui sera réellement lynché par la population ivoirienne. L'arrestation de Gbagbo diffusée sur une télé de fortune dans une rue. La crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, donc en toile de fond. Et ce pouvoir des mots que vous mettez en exergue, Philippe Lacote, dans cette prison qui est un lieu oublié du monde. Qu'est-ce que ce choix dit de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui ?
Qu'est-ce que ce choix dit de la Côte d'Ivoire ? Ce choix dit qu'on a traversé ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, de grandes, grandes violences dans ce pays, de grandes incompréhensions, de grandes humiliations, et qu'aujourd'hui, il faut trouver les mots pour dépasser tout ça.
La parole au centre, si j'ose dire. Vous la remettez en jeu.
La parole après la violence. Voilà, il faut qu'aujourd'hui, toutes les populations de Côte d'Ivoire, tous les partis de Côte d'Ivoire, toutes les parties de Côte d'Ivoire se retrouvent et se parlent.
Et pourtant, c'est un film que vous diriez pas forcément politique ?
C'est un film politique, le fait de placer du récit dans cette prison-là, c'est un film politique. Mais je dirais que pour la Côte d'Ivoire, c'est, à mon sens, c'est un film cathartique.
Philippe Lacote, vous êtes un observateur de la Côte d'Ivoire et je crois savoir désormais que ça ne date pas d'hier.
Approche, Gus. Approche. Non, je vais pas te faire mal. Allez, t'as perdu 3 rounds déjà.
C'est la main qui réunit. C'est la main qui invective. C'est la main qui donne. C'est la main qui reprend. C'est la main qui répand. C'est la main qui frappe. C'est la main du coup de grâce et du corps qui se tend.
J'ai comme jeu de main, jeu de vilain.
Et c'est votre voix, Philippe Lacote, qu'on vient d'entendre sur fond d'archives, avec notamment le visage de Mohamed Ali sur le ring, Malcolm X ou encore un Lumumba au moment de son arrestation. Et c'est votre main qui filme une partie de sa biographie et de Ouassakara, votre quartier du côté d'Abidjan. Pour dire quoi, alors, dans ce documentaire que vous avez intitulé « Chronique de guerre en Côte d'Ivoire » ?
En fait, pour dire d'où je viens, pour dire qui je suis. Je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire le 15 septembre 2002 et 3 jours après, la rébellion a éclaté. Et donc, j'ai filmé mon quartier, Ouassakara, Yopougon.
Spontanément ?
Voilà, j'étais là pour ça. Mais je ne savais pas quoi filmer, donc j'étais déjà prêt. Donc j'ai eu même le premier communiqué à 4h du matin, le 18 septembre, qui annonce qu'il y a une tentative de coup d'État par Afin Guessant, le premier ministre de l'époque. Et donc j'ai fait un portrait comme ça de mon quartier pendant 3 semaines de couvre-feu où j'ai interrogé tous les camps, où je faisais des micro-trottoirs. Il y avait eu un coup d'État en 2000, en 99-2000, mais là c'est la première fois que la Côte d'Ivoire basculait vraiment dans une rébellion. Et après ces images-là, je me suis dit que ce film-là demandait plus de moi et qu'il fallait dire qui j'étais, pourquoi j'étais relié à ce pays, qui était ma mère, qui était mon père.
L'intime donc qui se mêle à la politique et la politique qui est faite d'intime, car effectivement les deux pour vous se mêlent. Vous qui êtes né en 1969 à Abidjan, vous dites que vous êtes lié à un certain Oufouette Boigny d'une manière ambiguë, c'est-à-dire ?
Oufouette, c'est le père de la nation. On a grandi vraiment avec les images d'Oufouette Boigny. Une pensée d'Oufouette Boigny ouvrait le journal télévisé tous les jours. À l'école, on se levait pour dire son nom avant de commencer les cours. Et nous, on aime tout ce que Oufouette Boigny aimait. C'est-à-dire que Oufouette Boigny aimait la boxe. Mais on a regardé tous les combats diffusés à 4h du matin depuis les États-Unis. Et à la fin, on aime la boxe. Mmh. Voilà. Donc Oufouette Boigny, on vivait vraiment dans ses projections. Mais en même temps, venant d'une famille politique, ma mère était une opposante à Oufouette Boigny. On observait Oufouette Boigny aussi d'une manière très 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 prudente parce qu'il était assez dangereux avec ses opposants.
Mmh. On reviendra sur la figure de votre mère, Philippe Lacote. Mais plus loin dans ce documentaire, vous racontez l'histoire de votre père français qui lui a eu 2 vies. Quelle a été sa première vie ?
En fait, j'ai structuré ça comme ça, parce que c'est une première vie que je ne connais pas. Mon père est arrivé en Côte d'Ivoire en 1956, mais avant ça, Il a été jeune français et à l'âge de 17 ans, il s'est engagé dans la milice française, donc en 43, je crois, donc en plein conflit
créé par Vichy,
voilà, de la Seconde Guerre mondiale. Et après le débarquement, quand les Alliés, quand les Américains sont rentrés jusqu'à Paris, il a suivi les Allemands, il a porté l'uniforme allemand.
Vous dites allemand, vous dites pas nazi.
Les nazis. Il était d'idéologie nazie. Voilà. Donc il a suivi les nazis.
Non, mais parce que vous assumez cette histoire. Je le souligne, c'est pas...
Ah oui,
c'est...
j'assume cette histoire. Ça veut pas dire que j'en suis fier. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder là où ça fait mal. Je pense qu'aujourd'hui, le récit français de la guerre n'est pas totalement juste. Il y a eu des résistants, il y a eu des collabos, mais c'est important de dire que dans l'Europe entière, il y a eu une jeunesse qui a adhéré aux idées nazies. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on voit une autre jeunesse qui aurait tendance à partir en Syrie et tout ça. Et donc, il faut réfléchir à tout ça. Et donc, moi, je suis la preuve, par l'histoire de mon père, que toute la France n'a pas été résistante.
À la fin de l'année 44, mon père se bat sur le front ouest pour empêcher l'avancée des Américains. Il porte maintenant l'uniforme allemand. Il a franchi le pas. Mon père ne m'a jamais dit sa guerre aux côtés des Allemands. Il m'a seulement raconté qu'une fois, il s'était réfugié dans une ferme avec un camarade, ex-milicien lui aussi. Ils avaient faim, ils avaient fouillé toute la ferme. Un cheval était attaché dans la grange. Quand le cheval gisait sur la paille, ils avaient commencé à le découper avec leurs baïonnettes. À ce moment, une paysanne s'est montrée. Elle a tendu sa main vers l'ami de mon père et elle a dit « Toi, pour cela, tu auras la tête tranchée. » Elle s'est tournée vers mon père et elle a dit « Et toi, pour cela, tu devras vivre deux vies. »
Philippe Lacote, en voix off, dans ce documentaire Chronique de guerre en Côte d'Ivoire et dans le fauteuil d'En Sol Majeur. Donc, votre père a été jusqu'au bout, dites-vous, de cette idéologie nazie. Parce qu'effectivement, jusqu'en 1945, au moment où cette idéologie s'effondre, il poursuit et il vous raconte sa fin de guerre.
Oui, il m'a raconté qu'il faisait partie des derniers 500 qui protégeaient le bunker d'Hitler à Berlin. Et c'est une idéologie qu'il a toujours portée.
Même après la guerre.
Même après la guerre, c'est une idéologie qu'il a portée. Et donc, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est quelque chose qu'on n'a pas appris au départ. Hein. C'est quelque chose qu'on a appris progressivement. En tout cas, que ma mère a appris progressivement. Moi, quand je suis né, c'était déjà affiché. Et j'ai grandi vraiment entre Mein Kampf et l'anniversaire d'Hitler.
Wow. Voilà.
Donc, j'ai grandi vraiment dans une connaissance de l'idéologie nazie. Et puis après, moi, j'en ai fait autre chose.
Oui, justement. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous comprenez l'enjeu de cet engagement? En Afrique, hein, en même temps.
Voilà.
On est dans un coin qui s'appelle l'Afrique.
Voilà, l'enjeu, il est moins fort par rapport à l'Europe, parce qu'il y a une distance, déjà. C'est-à-dire que moi, quand j'ai appris le passé nazi de mon père, je ne savais pas exactement qu'est-ce que c'était le nazisme. Voilà, donc je ne pouvais pas mesurer forcément. C'est plus tard, quand je me suis installé en France, quand j'ai commencé plus à lire, que j'ai compris pourquoi aussi il était parti. Je pense qu'ils avaient, comme je dis, franchi le pas et que ce n'était pas possible de rester dans cette société gaulliste de la libération. C'est comme s'il y a un pacte qui était déchiré. Et donc j'ai compris pourquoi mon père était aussi solitaire, pourquoi il est arrivé en Afrique tout seul. Et au lieu de prendre ça comme une tare, ça m'a amené plutôt à me poser des questions. Ça m'a amené plutôt à observer l'histoire et à observer les perdants de l'histoire.
Que faire des erreurs de ceux qui nous ont précédés? C'est un peu une petite musique intérieure qui vous habite, Philippe Lacote. Et autour de cette question, vous choisissez de justement ne pas garder ce secret. Le secret de ce passé nazi.
Je suis cinéaste et je pense que je travaille avec la matière intime. Et donc, la première personne qui ne doit pas se mentir en tant que cinéaste, c'est le cinéaste lui-même. Donc, si j'avais fait ce film Chronique de guerre en Côte d'Ivoire, que j'avais parlé de la guerre et que j'avais parlé de ma mère et de la guerre et que j'avais pas évoqué ce passé nazi de mon père, j'aurais complètement triché. Et là, je remercie ma monteuse et collaboratrice artistique Delphine Jacquet qui m'a poussé jusqu'au bout à sortir cette histoire.
La prédiction, en tout cas, de cette paysanne, c'est ce que vous racontez dans le documentaire, va effectivement se réaliser. Votre père, qui ne pourra pas rester en Europe pour des raisons qu'on imagine, je crois qu'il aura fait 3 ans de prison. Il était très jeune, hein, il avait 17 ans quand il s'est engagé dans le nazisme. Finalement, il aura une deuxième vie, mais là, on se demande de l'extérieur comment c'est possible qu'il atterrisse non seulement en Afrique, mais qu'en plus il épouse une femme noire.
Parce que la complexité et l'absurdité de l'antisémitisme, c'est que c'est une paranoïa et qu'il y a des antisémites qui se déclarent non racistes. Donc mon père était vraiment non raciste. Il arrive en Afrique, en Côte d'Ivoire, en 1956, parce que pendant ses 3-4 ans de prison, il a appris un métier. Il a appris à être traceur, chef de chantier. Donc il construit des écoles en Côte d'Ivoire.
Et toujours pour ce doc, vous interrogez, vous, votre mère, donc cofondatrice du FPI, premier parti de Laurent Gbagbo.
Mais pourquoi toi, tu t'es inscrit dans ce parti ?
Moi, je vis en France. Toutes les années que j'ai fait là-bas, tous les partis gaullistes et tout, quoi, j'ai vu que cet homme pouvait sauver l'Afrique.
Mais à l'époque, c'était Oufet Bani qui était au pouvoir.
Oui, mais j'ai vu que lui pouvait sauver.
Ça vous a pas fait peur?
Non, non, on n'a jamais peur.
comment ça s'est passé alors, quand vous avez commencé?
Ah, c'était dur, hein. On se cachait.
C'était des réunions clandestines au début?
Oui, de maison en maison.
Et après, il y a eu des arrestations aussi.
Oui, on est parti en prison pour préparer.
On est parti en prison pour préparer, c'est-à-dire pour cuisiner ?
Pour cuisiner, parce que c'est elle qui cuisinait pour le leader du FPI.
Qui était en prison et elle-même était...
Elle-même était en prison et cuisiner, ça veut dire la personne de confiance qui ne vous empoisonnera pas.
Donc vous...
eh oui. C'est ça que
on
ça y veut
est,
dire.
On est dans une grande thématique pour le continent, l'empoisonnement. Referme la parenthèse. Et donc vous, gamin, vous arrivez dans cette maca pour visiter régulièrement votre mère.
Oui, je voulais dire qu'effectivement, ma mère est fait partie des premières personnes du FPI. Elle n'a jamais occupé un poste important parce que ce n'est pas une intellectuelle, c'est vraiment une militante de terrain. Et il faut resituer un peu le FPI parce que c'était le premier parti qui a mené le multipartisme en Côte d'Ivoire.
D'opposition.
On était dans un parti unique. Oufet Boigny disait « nous n'avons pas besoin d'une autre voix ». Il y a le PDCI et c'est suffisant. Et donc les militants du FPI ont vraiment dû traverser beaucoup, beaucoup d'épreuves. Et donc ma mère a été en prison suite à une manifestation de l'opposition où il y a eu de la casse. Et donc ils sont venus arrêter tous les leaders chez eux en disant que c'était du vandalisme, flagrant délit de vandalisme. Donc ils ont été enfermés directement. Et donc moi j'ai visité cette prison effectivement pendant une année, une fois par semaine.
Alors la question qu'on peut se poser à votre sujet, Philippe Lacote, c'est comment vous vous êtes construit entre donc ce père blanc, ancien nazi, cette maman noire, bété, pro-Gbagbo. Vous-même, vous avez fait beaucoup d'allers-retours hein, entre la Côte d'Ivoire et la France. Comment vous avez trouvé votre place entre ces multiples mondes et ces multiples états d'esprit ?
Ben, je ne sais pas si j'ai trouvé ma place, mais en tout cas ma manière d'avancer, c'est de ne pas nier ces situations, c'est d'être au centre de ces situations, d'être dans cette complexité.
C'est très inconfortable d'être au centre.
C'est très inconfortable, c'est pas toujours confortable. Aujourd'hui, faire des films dits politiques en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, c'est pas évident, parce qu'il faut être presque un exemple. Si on critique les autres, il faut être presque un exemple. Mais ce qui m'intéresse, c'est de me placer vraiment au centre de cette relation noir-blanc au sein de la colonisation.
Oui, parce que vous êtes ce qu'on pourrait appeler un enfant métis de la grande histoire, c'est-à-dire fruit de deux grands chocs historiques, le nazisme de l'Europe d'un côté et la colonisation de l'Afrique de l'autre.
C'est ça. J'ai deux parents qui viennent de parcours politiques très 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 différents et il se trouve que je suis le résultat, comme beaucoup de métis hein, en Afrique.
Oui,
je parle pas du métissage culturel qui est quelque chose de magnifique. Je parle de la situation de métis après colonisation en Afrique occidentale. Et je pense que voilà, c'est une place inconfortable parce qu'on est le résultat de deux groupes antagonistes, hein, qui font semblant de ne pas être antagonistes, mais qui sont complètement antagonistes. Les métis sont ceux qui voient les deux groupes s'échanger dans les coulisses pour jouer leur rôle. Et ça, c'est impardonnable. Mmh.
Donc, vous avez été, parmi tous ces métis, détesté en Afrique ?
Non, je n'ai pas été détesté. J'ai eu une enfance vraiment très, très, très heureuse. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de trouver un chemin dans tout ça. Simplement, je me suis toujours senti le résultat de cette confrontation.
Comment ?
Ben, juste en termes de visibilité, déjà. En tant que métis, on est très, très, très visible en Afrique, en termes sociaux, et en côtoyant aussi les deux communautés. J'ai toujours vu que c'était des communautés qui ne s'entendaient pas en vivant avec un couple mixte.
Oui, voilà, oui. C'est... Et vous vous sentez appartenir aux deux communautés ?
Je pense que métis, il y a des choses sur lesquelles on est très européen et il y a des choses sur lesquelles on est très africain. Je ne crois pas à la confrérie des métis.
Ouais. Et c'est quoi alors ces choses ?
Ben, c'est dans le quotidien, mais disons que voilà, c'est une pensée analytique que je pense que j'ai pris aussi beaucoup de mon père. J'ai été un peu formé pour être... une sorte de savant nazi.
Oh là là.
Voilà, donc d'être dans l'excellence comme ça.
Ça veut dire quoi ? Quelle éducation finalement ? Donc il y avait la lecture de Mein Kampf.
Non, moi je ne lisais pas Mein Kampf, j'étais trop jeune pour ça.
Ouais.
Mais c'était beaucoup d'ouvrages scientifiques, parce que mon père était beaucoup intéressé par la science. Mais c'était une approche, en fait, on va dire, presque génique de l'intelligence ou de l'instruction. C'est-à-dire qu'il me faisait des tests de quotient intellectuel tous les 6 mois. Voilà. Est-ce que l'intelligence avait progressé ? Il fallait lire un mot dans le dictionnaire tous les jours. Il fallait apprendre à faire des choses les yeux fermés. Voilà.
L'excellence, la performance.
Oui, la performance, et qu'on retrouve aussi dans le nazisme. Hein,
comment vous avez échappé à l'antisémitisme ?
Parce que l'antisémitisme, c'est culturel. Je pense que c'est culturel. Je pense que c'est né dans une époque précise, avec des fantasmes qui ont été attisés à un moment précis. Et moi, je n'étais pas du tout dans le contexte de cet antisémitisme-là, donc je ne savais même pas qu'est-ce que ça voulait dire.
Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu envie de vous confronter à votre père, à remettre en cause cette idéologie qui était la sienne ?
Il y a eu ces moments-là, et heureusement qu'il y a eu ces moments-là, parce que moi, j'ai perdu mon père assez jeune, quand même, j'avais 22 ans. Mais il y a eu ces moments-là, effectivement, de 18 à 22 ans, on ne s'est pas vu beaucoup. Mais quand on se voyait, c'était difficile. Mais c'était difficile en termes d'arguments, parce que moi, je suis complètement libertaire, en fait, voilà, politiquement. Mais c'était bien d'avoir ces chocs-là, parce que là, quand je suis revenu le voir, mais là, je connaissais l'histoire du nazisme en Occident. Et donc là, j'avais des choses à dire.
Alors, comment vous vous êtes construit ? L'une des réponses se trouve du côté du cinéma. Vous avez en tête, d'ailleurs, 2-3 souvenirs importants. 2-3 souvenirs popcorn.
Little fellow, you must have given up the hope of living.
Uh-uh. On the contrary, I do not let the word death bother me.
Bruce Lee, Le jeu de la mort.
Same here, baby.
Then what are you waiting for?
Depuis 2 semaines, je ne fais que te regarder à la dérobée. Presser ta main au vol. Tout le monde nous surveille.
Désiré Carré, visage de femme.
Tu es étrange.
Mais oui.
Oh. Donne-moi-nous. Fia fialé. Ou aflami.
Ok. C'est ça qu'on crée l'influence sur nous. Nous sommes des nous. Si on a fait semaine d'un gabou, il y a fini. Non, on a fait ça.
Fassbinder.
Cognac.
Berlin Alexanderplatz.
Cognac. Bei entsprechendem Glockenzeichen ist sofort mit der Arbeit zu beginnen. Sie darf nur unterbrochen werden in der zum Essen, Spaziergang, Unterricht bestimmten Zeit. Beim Spaziergang haben die Gefangenen die Arme ausgestreckt zu halten und vor- und rückwärts zu bewegen.
Es kommt. Sesam.
Alors Philippe Lacote, on a le pop-corn sur les genoux là quasiment. Pourquoi Bruce Lee, Fassbinder et Désiré Carré? Mais pourquoi ces trois-là?
Ben, Bruce Lee, c'est vraiment mes souvenirs d'enfance. Parce que quand j'étais enfant, ma maison était collée à un cinéma, le Magique à Marcory. Et j'ai vécu une expérience un peu particulière lors d'un film de Bruce Lee. On regardait un film une fois. Nous, on était vraiment fascinés par l'écran. On pensait que tout ce qui se passait dans l'écran était vrai, que l'écran continuait quand on n'était pas là, que c'était un monde à part entière et que tous les gens de tous les films se connaissaient. Voilà.
C'est plus fort que la fiction.
Oui, voilà, c'est du cinéma degré zéro. Et un jour, on regardait un film de Bruce Lee et il y a un méchant qui venait dans le dos de Bruce Lee pour l'attaquer. Et il y a un spectateur qui s'est levé, qui a sorti son couteau, qui a poignardé le méchant sur la toile. Donc on a arrêté la projection. Et ce jour-là, je me suis dit, mais quel est cet outil? Quelle est cette magie qui permet en même temps d'être aussi concret et en même temps d'être aussi magique? Voilà.
Visage de femme, Désiré Carré.
Visage de femme, Désiré Carré, c'est un grand réalisateur ivoirien. J'aime beaucoup ce film parce que je connais l'actrice qui est une cousine de ma mère. Et Véronique Maillet, qui est une grande actrice. Il y a eu un scandale autour de ce film, mais je pense beaucoup à Désiré Carré parce que...
Un scandale parce que... Alors vous
un scandale vous citez... parce qu'il y a une scène d'amour qui est réelle dans
vous
ce
ne
film.
Vous ne citez pas Sidiki Bakaba, qui est le comédien masculin.
Ah ben et si, Sidiki Bakaba.
C'est mais... à lui que vous deviez cette scène scandaleuse de nudité.
Ben ils sont deux.
On était en 72.
Voilà, donc il y a une scène réelle d'amour. C'est un très très beau film, c'est un film sensuel et... Désiré Carré, c'est dommage qu'il n'ait pas fait plus de films, parce que ce film est vraiment, pour moi, fondateur du cinéma ivoirien.
Fassbinder ?
Fassbinder, c'est toujours lié à l'histoire de mon père. Fassbinder, c'est quelqu'un qui a beaucoup questionné l'Allemagne nazie. En tant que fils de la génération qui avait participé à la guerre et qui s'était tue pendant le nazisme, même s'ils n'étaient pas d'accord. Et donc, dans Berlin, Alexanderplatz, il y a cette scène incroyable où il y a un chômeur à qui on dit « tu vas trouver du travail ». Et il arrive, on lui dit, tu vas vendre ces journaux. Il regarde, c'est Folkischer Beobachter, c'est l'observateur du peuple, c'est le journal nazi. Il hésite, il commence à le vendre, on lui met un brassard avec une croix gammée. Et voilà, il est devenu nazi.
Est-ce que vous diriez que pour le métis en construction que vous avez été et qui a navigué quand même entre plusieurs mondes, le cinéma a été une des réponses?
A été la seule réponse. Parce que je pense que j'aurais pas été nazi, mais j'aurais été gangster. Le cinéma était la seule réponse parce que le cinéma était assez vaste pour que justement je retrouve un espace où ramener toutes ces histoires. Mm-hmm. Parce que ce que je retiens de mes parents, ce que je retiens de leur parcours, c'est que ce sont des parcours d'histoire, ce sont des trajectoires humaines. Mm-hmm. Et donc moi je travaille avec des trajectoires humaines aujourd'hui et je repose toujours cette question des invisibles, de ceux qui se sont trompés. C'est cela qui m'intéresse.
Est-ce que cela fait de vous un métis culturel, pour reprendre votre terme de tout à l'heure?
Ben, quand je parle de métis, je parle vraiment de la situation liée à la colonisation. Le métissage culturel, c'est très intéressant, mais on est tous des métis culturels. Même aujourd'hui, on porte des vêtements qui viennent du bout du monde, on est tous des métis culturels. Mais ce que j'observe, c'est cette situation de métis issue de la colonisation.
Vous êtes apaisé par rapport à cette... histoire-là ?
Ah oui, je suis apaisé par rapport à cette histoire, mais en même temps, j'essaie de la regarder toujours là où ça fait mal. C'est ma place un peu, c'est la place que je me suis assignée. Je regarde la Côte d'Ivoire là où on ne doit pas trop la regarder, et voilà, je suis entre deux.
D'où le cinéma, d'où Run aussi, pris Un certain regard et Caméra d'or à Cannes en 2014. L'histoire d'un jeune patriote qui vient de tirer sur le premier ministre ivoirien. Il fuit, il est en quête d'un refuge et il se souvient, au cours de son errance, de ses jeunes années passées en brousse auprès d'un certain Tourou, un vieux sage qui voulait faire de lui un faiseur de pluie. Je vous laisse, Philippe Lacote, nous suggérer l'image qui va avec cet extrait à 26 minutes.
On est dans des collines, on a tourné à Saint-Dou, et donc là, il y a toute une foule qui marche pour une cérémonie. Et là, il y a Tourou qui dit « jeter mes cendres » parce qu'il doit se sacrifier. Et donc là, il y a son assistant qui doit le tuer, qui doit lui couper la tête, qui soulève sa hache. C'est le jeune Ram. qui n'y arrive pas. Donc là, on lui rappelle la loi, c'est ton devoir. Et là, il y a le deuxième assistant rival qui vient et qui coupe la tête de Tourou. Et du coup, il commence à pleuvoir parce que Tourou, c'est le faiseur de pluie qui n'arrivait plus à faire pleuvoir. C'est pour ça qu'il se sacrifie. Et du coup, il y a ce jeune homme qui rêvait d'être faiseur de pluie, qui avait le pressentiment que ça n'allait pas avoir lieu et qui vient de se faire voler cette place de faiseur de pluie, qui est banni de cette communauté, qui va partir en courant. Et du coup, il s'appelle Ron.
Qu'est-ce que ça représente, un faiseur de pluie, pour vous, dans votre univers à vous, Philippe Lacote ?
Ben, un faiseur de pluie, c'est comme un raconteur d'histoire en prison. C'est comme un aveugle qui fait des prédictions. C'est-à-dire que j'aime bien des figures ouvertes, comme ça, qui permettent le merveilleux.
En tout cas, c'est aussi un film qui raconte, Ron, donc, ceux qui se trompent dans l'histoire. Ça, c'est quand même un sujet de prédilection pour vous.
C'est une question. C'est une question qui revient, voilà, parce que l'échec m'interroge plus que la réussite. J'ai beaucoup de tendresse pour ceux qui se trompent. Et pour moi, je fais des films politiques, je fais des films avec du réalisme magique, et je fais des films sur des personnes invisibles.
Dans un français ivoirien magnifique, souvent, je me demandais si vous parliez la langue bété.
Eh non, malheureusement. C'est une langue que je comprends, mais c'est une langue qui ne m'a pas été transmise en termes de parler.
Étrange. C'est la langue maternelle, donc.
Ouais, c'est la langue maternelle, mais je pense que ma mère était dans une volonté d'européanisation très forte. C'est comme si les enfants qui avaient une partie blanche ne devaient pas parler une langue africaine.
C'est ça dans sa tête ?
Je crois, c'est mon interprétation.
C'est votre interprétation. Vous êtes beaucoup dans l'interprétation.
Mais oui. Peut-être que c'est parce qu'il y a beaucoup de secrets. Quand il y a beaucoup de secrets, on est obligé d'interpréter.
Comment vous aimeriez être perçu ou présenté, Philippe Lacote, comme un cinéaste franco-ivoirien, un cinéaste africain ou un cinéaste tout court ?
Je déteste ce mot de franco-ivoirien.
Pourquoi ?
Je déteste parce que c'est un concept, ça ne veut rien dire. Moi, je suis français et je suis ivoirien. Je suis ivoirien et je suis français, je ne suis pas franco-ivoirien. Comme un cinéaste qui tourne en Afrique.
Vous avez choisi de quitter la France et de vivre véritablement en Côte d'Ivoire. Pour quelle raison ?
C'est un nouveau retour. J'ai fait beaucoup de retours, d'allers-retours entre les deux pays. Et aujourd'hui, par rapport aux histoires que je raconte, par rapport au terrain que je filme, je pense que ma place est au milieu de cette complexité-là. Ce n'est pas facile aujourd'hui, quand on vient d'Europe, ou quand on est métisse, ou quand on est cinéaste, et quand on a un peu plus de moyens que la population, de vivre en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une population qui s'en sort, mais il y a une grande partie de la population qui ne s'en sort pas. Et évidemment qu'en venant d'ici, en ayant un métier, ben on va être du côté de ceux qui s'en sortent. Mais c'est cette contradiction-là, c'est ces confrontations-là qui m'intéressent.
Votre matériau, on l'a bien compris, c'est la Côte d'Ivoire. En tant que cinéaste, vous voulez raconter cette Côte d'Ivoire, peut-être la jeunesse ivoirienne aussi, qui est dans une souffrance. Mais il y a aussi le fait de quitter la France. Est-ce que derrière, il y a des comptes que vous réglez avec cette France qui vous fâchent politiquement ?
J'ai beaucoup de choses à régler avec cette France. Parce que déjà, en tant que cinéaste, j'ai passé 10 ans, 15 ans ici à vraiment me heurter à un mur.
C'était quoi ce mur ?
C'était le mur de la bêtise, parce que j'avais pas fait La Fémis, parce que j'avais pas fait Louis Lumière, et on me disait, tu sors d'où et pourquoi tu veux faire du cinéma ? Parce qu'on est quand même dans un système très, 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 très fermé, dans un milieu. Bon, aujourd'hui, moi, je peux le dire, puisque j'arrive à faire les films que j'ai envie de faire. Je travaille avec les États-Unis, je travaille aussi avec la France, donc c'est pas de la rancune. Mais disons que il y a eu beaucoup de frictions à un moment, et aujourd'hui, je ne suis pas du tout d'accord avec la politique de la France en Afrique. Et dernier point qui est encore plus important, c'est que j'ai envie de vivre dans une société moins rationnelle, où il y a plus de magie, qui est notre Moyen-Âge à nous.
Le métis a choisi son camp.
Ouais, ça peut changer encore, mais disons que je me sens plus nécessaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
Merci Philippe Lacote, je conseille vraiment ce film La Nuit des Rois, donc qui est sorti en salle en France et bientôt sur le continent dans plusieurs grandes villes africaines.
Il sort depuis le 11 septembre à Cotonou, à Madagascar, à Lomé, à Niamey, à Dakar, à Yaoundé, à Douala, dans les salles Canal+ Olympia.
Et puis on va terminer royalement avec un choix à faire pour vous entre Alpha Blondie, Samouraï ou bien Asmahan. Avec Layali El Ansi, c'est-à-dire on est dans le reggae africain ou dans la mélopée orientale.
Asmahan.
Vous êtes sensible à l'Orient aussi, à cet Orient?
Oui, j'ai passé pas mal de temps en Égypte. Et le Caire est une ville que j'aime beaucoup. J'ai côtoyé beaucoup de jeunes poètes là-bas. Ça a donné un film documentaire qui s'appelle Cairo Hours. Mais la musique de la langue arabe, c'est quelque chose qui me fascine, la poésie arabe. Mahmoud Darwish, Rumi, tous les soufis. J'ai découvert le soufisme en Égypte.
Shukran, Rouya. L'Orient toujours, dans Sol majeur, émission à réécouter en podcast sur votre application Pure Radio, c'est un conseil en Sol majeur, ou bien sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et puis bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous prépare tout ça pour la semaine prochaine autour de Harry Gauthier. À la semaine prochaine. À bientôt, Philippe.
À bientôt, merci.
Tout à l'heure sur